L'un des aspects les plus négligés de la vie chrétienne est certainement celui du combat spirituel. Celui-ci constitue pourtant un élément fondamental en vue de grandir en maturité spirituelle, oserais-je dire en maturité tout court. Cette lutte spirituelle s'avère donc plus que jamais essentielle puisqu'il s'agit du combat où l'homme, la femme, s'oppose et résiste au mal, où il lutte pour ne pas céder, ne pas être vaincu par le mal, par les tentations. Les tentations, ce sont ces pulsions et ces suggestions qui sommeillent dans les profondeurs de notre cœur, mais qui se dressent souvent et émergent avec une force agressive jusqu'à prendre les traits de tentations séduisantes. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus nous a enseigné cette prière à faire dans son esprit chaque jour à notre Père afin qu'il ne nous laisse pas entrer en tentation. Origène, un père de l'Église, a bien résumé l'enjeu véritable de tout ceci. La tentation fait de l'homme un martyr ou un idolâtre. Suivant que l'on résiste, et nous voilà martyrs dans le temps le combat est dur, ou que l'on cède et nous voilà idolâtres de ce à quoi nous avons cédé. On n'enseigne plus cet art du combat comme le regrette Enzo Bianchi, ancien prieur de l'abbaye de Bose en Italie. On ne l'enseigne plus. Pourquoi ? Je ne vais pas épiloguer aujourd'hui là-dessus, mais parce qu'il n'y a plus de père spirituel dans l'Église. Il n'y a plus de thérapeute spirituel dans l'Église. On y attache de nos jours peu d'importance, même, forcément, dans les cercles chrétiens. Et en tout cas, dans le protestantisme, peu nombreux sont ceux capables d'accompagner et de former dans le domaine. Cela dit, tout cela paraîtra peut-être un tantinet archaïque, voire totalement obsolète et dépassé aux yeux de certains, en particulier à l'heure où la société occidentale ne jure plus que par la psychologie et la psychanalyse. Parler encore de tentation en 2024, est-ce bien raisonnable ? Et même sérieux, même dans les églises, on n'en parle plus, ou quasi plus. Ne doit-on pas au contraire être à l'écoute de ce que la vie propose et suivre nos désirs afin d'être heureux et par là même rendre ceux qui nous entourent mieux dans leur propre vie ? La sagesse biblique aurait plutôt tendance à nuancer ce propos en partant du diagnostic que l'être humain n'est pas toujours au courant lui-même de ce qui l'influence, l'irrigue, le traverse ou l'habite. Il est en revanche parfaitement clair que notre rapport à tout ceci dépendra évidemment de la vision plus large de ce que nous considérerons comme étant le bien ou le mal, profitable ou non, porteur de vie ou pas, et de la place que nous accorderons à une réflexion reposons en grande partie sur ce que Jésus a dit sur le sujet et à sa suite sur ce que ceux qui ont tenté de le suivre, c'est-à-dire de vivre son enseignement, de le prendre au sérieux, ont retiré de son enseignement. Victime de la perte de cet enseignement, de nombreux chrétiens se sont accoutumés à succomber aux tentations, convaincus qu'il n'y a rien à faire contre elles. Ces hommes et ces femmes avancent donc en cette vie en gémissant sous le poids de leur culpabilité ou en la traversant comme si tout cela n'avait pas d'importance. Alors soyons francs, s'engager dans cet enseignement, c'est prendre un chemin difficile, car cette lutte contre les tentations qui sommeillent en nous est extraordinairement dure. Mais sans elle, le chrétien baisse en fait les armes, s'identifie à la mentalité du monde, lieu de son existence, mais dont il ne peut plus partager les pensées ni vivre les préceptes. Rappelez-vous ce que Jésus disait, « Père, je te les laisse dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. » En un mot donc, sans cette lutte, l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, cèdent au mal. Il commence à alimenter en lui-même à la fois des attitudes religieuses et des inclinations idolâtres. Nous sommes en présence dans ce cas, et c'est ce que Jacques rapporte dans sa lettre, en présence d'une sorte de schizophrénie spirituelle, pour finir par vider complètement la foi de son sens, la foi qui est d'être transformée un jour à la fois à l'image du Christ. En effet, lorsqu'on commence à ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Le premier pas est donc de prendre cette lutte au sérieux, ou pas. Ça, c'est la liberté que Dieu nous donne à chacun et à chacune. Athanase d'Alexandrie, vous avez certainement encore lu cette semaine, raconte que certains riaient lorsque Abba Antoine, Père Antoine, donc le père du monachisme chrétien, était opprimé dans le désert par des esprits mauvais qui lui apparaissaient sous forme de bêtes et de serpents. Et Athanase de dire que ces personnes qui riaient donc étaient superficielles et ne se connaissaient pas elles-mêmes, ou étaient constamment vaincues par les tentations au point de ne plus s'en apercevoir. Il faut leur dire clairement, l'édification d'une personnalité humaine et spirituelle robuste n'est pas possible sans le combat intérieur, sans un exercice au discernement entre le bien et le mal, qui permet de parvenir à dire des « oui » convaincus à ce qui est bon, agréable et parfait, donc dans la volonté de Dieu, et des « non » efficaces à ce qui ne vient pas de Dieu. Oui à ce que nous pouvons être et faire en conformité avec le Christ, et non aux pulsions égocentriques qui nous aliènent et contredisent surtout nos rapports avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres et avec les choses qui nous entourent. Rapport appelé à être caractérisé par la liberté et l'amour uniquement. Parce que mes amis, la caractéristique de l'égocentrisme est de chosifier les êtres et de les transformer en objets de notre convoitise. Ce combat a donc pour but une vie pleine et accomplie, comme la qualifie Paul dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, que je cite, « une vie à la stature parfaite du Christ ». Entrons à présent dans le vif du sujet avec une petite histoire vraie. Un apophthegme, c'est pas facile à dire, ouf. J'ai été vérifié dans le grec, il faut dire le PH. Hein. Apophthegme. Désolé pour les premiers rangs, hein, ça va peut-être. Giclais un petit peu. On disait d'un moine qu'il avait confessé sa foi durant une persécution et qu'il avait été torturé au point qu'on l'avait assis sur un siège enflammé. C'était une pratique assez courante à l'époque, très réjouissante hein, entre nous. Et sous ces entrefaites vint le règne de l'empereur Constantin, et les chrétiens furent donc relâchés, parce que Constantin, vous le savez, est le premier empereur chrétien. Il a donc imposé la foi chrétienne comme religion quasi d'État. Ce moine a donc été libéré, étant chrétien. Une fois guéri de ses blessures, ce moine retourna dans sa cellule dans le désert, là où il méditait. Dès qu'il la vit de loin, donc dès qu'il a aperçu l'endroit où il méditait, il s'est écrié « Malheur à moi, car me voici revenu à bien des maux ». Il disait cela des luttes contre les tentations et les démons. La torture était moins pénible que le combat spirituel. Une autre citation pour garder le rythme. Voici la grande œuvre de l'homme. Rejeter sur lui-même sa faute devant Dieu et s'attendre à la tentation jusqu'au dernier soupir. Ouais. Ben, je suis désolé de vous le dire, mais c'est le chemin, les gars. Donc, et les gâtes, mais je ne sais pas si ça se dit. Redisons d'emblée que le thème du combat spirituel est fermement enraciné dans le message biblique. Les pères, en particulier d'Orient, et les pères du désert n'ont rien inventé. Ils ont bien compris quels étaient les enjeux et les priorités. Ce combat a été ensuite approfondi dans de nombreux textes de la tradition patristique et de la littérature ascétique, surtout monastique, tant en Orient Qu'en Occident, même si au cours des siècles, l'Occident chrétien s'est un peu perdu sur le sujet, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Cet héritage que les grands spirituels du passé nous ont laissé doit aujourd'hui, et ça j'en suis personnellement convaincu, hein, plus que jamais, être redécouvert et valorisé. La vie selon l'Esprit Saint, dont parle Paul, hein, à laquelle tout chrétien est appelé, comporte en effet une connaissance de soi, une compréhension des mécanismes qui régissent la tentation, un discernement des zones de faiblesse particulière, et nous en avons tous, pour pouvoir combattre le péché avec fermeté et vigueur. Mes amis, le péché, je le rappelle quand même, s'il faut le définir, est une puissance personnifiée qui œuvre en l'homme et à travers l'homme, parce que c'est un impact sur les autres aussi, contre l'homme lui-même et sa volonté, comme l'a judicieusement relevé Paul, hein, qui ne s'en cachait pas. Rappelez-vous, hein, Romains 7, très connu ce chapitre. Hein. Ça nous fait beaucoup de bien d'entendre un apôtre tel que Paul dire ça, mais ça veut surtout dire que lui se battait contre ça. « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Ça, c'est le combat spirituel. Ça, c'est le mal en lui, qui lutte contre la partie de lui, habité par l'Esprit, qui veut faire et accomplir la volonté de Dieu. Tous les hommes, peut-être précisé, hein, sans exception, font l'expérience, Bible en main, il y a plein de textes, vous verrez dans les notes, hein, il y a plein de références bibliques, hein, font l'expérience de la réalité du péché. Même si nous le savons, ils ne le considèrent pas tous pour ce qu'il est. Demandez à un athée ce qu'il pense du péché, il vous dira « ça n'existe pas ». Puisque le péché, ça n'a un lien qu'avec Dieu. Reste la faute quand vous ne croyez pas en Dieu. Vous collez un coup de poing à quelqu'un, un athée qui frappe quelqu'un, demandez au quelqu'un qui a reçu la bengue ce qu'il pense. Bien sûr que c'est une faute moralement inacceptable, mais il n'y a pas de péché là-dedans. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tentation. Ce péché est donc une puissance déformante qui s'objective en des péchés singuliers, lesquels sont tous, à travers des manifestations qui peuvent être différentes, des formes de relations négatives et destructives à l'égard de l'humanité de l'autre, en commençant par ce premier autre qu'est le moi face à soi-même. Autrement dit, la première victime du péché avant d'être l'autre, c'est moi. La première victime de mon péché, c'est forcément moi. Donc en profondeur, tous les péchés peuvent donc être amenés à un seul grand péché, la négation de l'alliance et de la communion. Pourquoi croyez-vous que Dieu parle d'alliance et de communion? Parce que c'est l'antidote au péché. Toujours Enzo Bianchi. Le péché, c'est-à-dire la rupture par laquelle le moi, de moi avec les autres, se pervertit en moi contre les autres. C'est donc la conséquence. Alors les racines de la réflexion sur ce combat spirituel se trouvent, je l'ai dit, dans l'Écriture, dans la Bible. Alors, dès les premières pages de la Genèse, ça commence bien, comme une funeste conséquence, l'Ancien Testament nous rapporte le commandement de dominer l'instinct mauvais qui habite le cœur humain. Genèse 4, 7, le péché tapis à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. On domine comment? En se battant, en s'opposant, en maîtrisant ce qui nous agresse. Un passage de la Genèse dit encore, Genèse 8, 21, l'instinct, yetzer en hébreu, du cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Ce sont des textes millénaires, il y a quand même déjà ce diagnostic très pertinent. Il y a un autre texte dans les Proverbes qui dit « Regarde l'enfant dès son enfant, donc dès sa jeunesse, et tu sauras ce qu'il deviendra, parce que le mal potentiellement est en lui. » Cette lutte contre le mal, contre le péché, est tellement nécessaire, contre les tentations, que Jésus lui-même ne s'y est pas soustrait. Et sa confrontation avec le tentateur dans le désert nous le montre clairement. Juste après son baptême, le premier mouvement que l'Esprit lui imprime, c'est d'aller au désert pour y être tenté. Comment pourrait-il nous aider dans les tentations si lui-même n'était pas passé par là? Et comment ne pas relever Ça me paraît intéressant. Que c'est l'Esprit Saint lui-même qui mène Jésus au désert, juste après son baptême, pour y mener cette lutte. Comme pour nous dire déjà que suite à notre baptême, le nôtre, la tentation ne nous quittera plus. À la différence que guidés par l'Esprit Saint, nous pourrons apprendre à ne plus être dupes de ces manigances. L'ennemi de nos âmes et notre ancienne nature feront tout pour nous détourner de notre chemin à la suite du Christ. Et pour le chrétien, je le crois profondément, le combat spirituel est un engagement tacite, on ne l'exprime pas toujours, que celui-ci prend au moment de son baptême. Et ça, on ne le redit plus. Il faut réaliser les pères, la préparation au baptême, je vous garantis que ça durait des plombes, parce qu'il voulait vraiment être bien certain que le futur baptisé avait bien compris dans quelle direction sa vie allait se diriger. C'est ce que Pierre exprime lorsqu'il écrit dans sa première lettre. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, passe pas par l'eau du baptême pour se purifier physiquement, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Comment va-t-on garder cette bonne conscience envers Dieu ? En se battant contre le mal, les forces du mal en nous et autour de nous. Et cette exigence, parce que c'en est une, soyons clairs, concourt à définir l'identité de foi du chrétien. Ou c'est ça, pour le dire autrement, dans la pensée des pères, où on vit ça, où on n'est pas véritablement chrétien. Voici ce qu'en dit Pier Franco Beatrice, c'est un homme, professeur de lettres classiques et d'études religieuses. Par le baptême, le chrétien s'engage à demeurer toujours en tenue militaire, à porter ce que Paul appelle les armes de la justice et les armes de la lumière. Pourquoi est-ce que Paul emploie ce genre d'image ? Si ce n'est pas pour nous faire comprendre que la vie chrétienne est un combat et qu'on doit demeurer en treillis militaire, parce que ce combat ne s'arrête jamais.
Vous êtes content d'être venu aujourd'hui.
Nous ne devons pas être surpris que le Nouveau Testament nous décrive à plusieurs reprises la vie chrétienne comme une lutte. Alors, on n'a pas ces passages où on les lit sans vraiment les lire, ou sans vraiment les comprendre, ou sans vraiment vouloir les comprendre, mais c'est invraisemblable le nombre d'occurrences dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, où on trouve cette notion de combat et de lutte. Alors, il ne s'agit pas, mais vous l'avez compris, vous le savez, d'une lutte opposant les hommes entre eux. Ce que l'Église n'a pas toujours compris. Elle a souvent tapé très dur sur la tête des autres à une époque. Mais bien les mettant aux prises avec le mal et le péché. Il s'agit, encore une fois, vous irez voir dans les notes toutes les références bibliques, et je vous encourage à lire tous les textes. Prenez le temps de le faire. Il s'agit du combat de la foi, ce que Paul dit à Timothée, qui naît de la foi y tend. C'est le combat quotidien de la foi pour trouver sa joie en Christ seulement. Pas dans les choses sensibles, pas dans le sexe, pas dans la gloire, pas dans l'argent, pas dans les choses de cette terre, mais en Christ. Mourir tous les jours au monde par ce combat, afin qu'il ne détruise pas notre joie. Croisez souvent des chrétiens souriants, vous. Heureux de vivre et heureux d'être là, et heureux de connaître Dieu. Ils sont heureux de plein de trucs souvent, mais pas de connaître Dieu, enfin, dans mon expérience. Donc que Christ devienne pleinement suffisant, parce que c'est ça le problème, suffisant à notre bonheur. Rappelez-vous le psaume 73, le psaume d'Azaph, magnifique. Il conclut comment ? Mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Le reste, je m'en fous, C'est un combat intérieur que le croyant doit mettre en œuvre pour s'opposer à la loi du péché qui fait la guerre à la loi de Dieu. C'est ce que Paul dit dans son épître aux Romains. Aux passions qui guerroient dans ses membres, Jacques, aux désirs de la chair ou de l'ancienne nature ou de la nature propre, peu importe, qui font la guerre à l'âme, Pierre. Apparemment, ils ont une obsession, les gars, non ? Et ce combat pour adversaire, le péché qui sait si bien nous entourer, là on est dans l'épître aux Hébreux. Les puissances de l'air, nous sommes en combat contre les puissances de l'air, j'y reviendrai plus tard, pas aujourd'hui, mais Ça, c'est Éphésiens, indiqué par des noms divers. Hein, le diable, Éphésiens, le malin, toujours Éphésiens. En un mot, toutes les forces maléfiques, intérieures ou extérieures, aux chrétiens que nous sommes, qui cherchent à nous ramener à notre condition d'avant notre baptême. Condition qui était celle, je le rappelle, d'un idolâtre. Avant de rencontrer Dieu, nous étions tous idolâtres. La Bible, elle ne connaît pas d'athée. Il y a ceux qui connaissent le vrai Dieu et tous les autres sont des idolâtres. Alors aujourd'hui, ouais, mais il n'y a plus de statut. Tous les hommes sont idolâtres par nature parce que le mal habite en eux.
Bon, moi qui le dis, hein, c'est la Bible.
Je reviens à Enzo Bianchi, notre petit copain. Le combat spirituel exige de nous que nous apprêtions chaque fibre de notre être à l'action réalisée par Dieu en nous. Vous avez bien compris. Dieu est en nous et combat avec nous. On n'est pas seul. On ne pourrait pas. Si on est tout seul, on est mort. On n'a aucune chance. Parce que le pire dans la tentation est de croire que nous combattons seuls. Alors que Dieu qui nous tend la main combat pour nous et avec nous. Et la première, et je reviens à Jacques, la première catastrophe dans l'Église qui nous fait penser que nous sommes seuls dans ce combat, c'est qu'on n'en le partage pas avec ses frères et ses sœurs dans la foi. On n'en parle jamais. Rappelez Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez quoi ? Guéris. Guéris. Vous allez à la bataille tout seul, vous ? Peut-être moi parce que je suis suicidaire, mais normalement, plus on est, mieux ça vaut. Hein, et on ne fait pas. Parce qu'on se cache. Et on peut comprendre, dans beaucoup d'églises, vous vous faites flinguer. Vous dites, voilà, j'ai tel péché dans ma vie, je ne parviens pas à m'en débarrasser. Bon, dans le meilleur des cas, oh, on va prier pour toi. Est-ce qu'ils vont le faire si on n'en sait rien ? On ne va pas douter de ça. Hein. Espérons, mais quelle aide on va apporter à cette problématique ? Aucune. Nous sommes tous pécheurs, en fait. Hein. Et la personne qui accueillera votre confession, il est aussi ou elle est aussi pécheur que vous. La bonne nouvelle ! Donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. On est tous logés à la même enseigne. S'il faut bien comprendre aussi, ça doit nous encourager. Si, si, hein, ben si. Ce combat, le Christ lui-même pour protagoniste, c'est lui que nous pouvons, nous devons invoquer avec les mots du psaume, par exemple 119, il y en a une flopée comme par hasard. Dans mon combat, viens combattre toi-même. Déjà le psalmiste dit ça à Dieu. Dans ce que je vis, dans mon combat intérieur, viens toi-même combattre à ma place. L'hébreu est plutôt en ce sens-là. Viens prendre ma place et combat à ma place. Combien de fois David dit « Tu es mon bouclier », mais contre quoi ? Il ne dit pas « Voilà, moi j'ai combattu, j'ai éradiqué tout le monde, j'ai pété mes péchés, j'ai écrabouillé mes ennemis ». Pas du tout, il dit « Tu es mon bouclier, ma forteresse, ma haute demeure, etc., etc., mon rocher. Dieu le prend et le met à l'abri ». Il est à noter d'ailleurs qu'à partir du moment où David ne s'est plus battu physiquement, militairement, sur des champs de bataille, c'est là qu'il a commencé à perdre son combat intérieur. C'est comique, hein, ça. Quand il est un peu livré à la loisiveté, il se passe quoi ? Ben, il commence à apprendre peut-être en tombant, ben, il commence à ne plus lutter contre ses démons intérieur. Quand je dis démon, c'est sens péjoratif, hein, bien entendu. On va ensemble parler plus tard. Voilà. N'en rajoutons pas quand ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, l'enseignement de Paul en 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qui fait quoi ? Qui combat en moi et avec moi. C'est la grâce de Dieu. De là aussi cette autre parole d'Antoine le Grand. Chasser les démons, c'est le don gratuit du Sauveur. Donc la capacité de le faire, de résister, de les chasser, parce que on parle souvent dans certains milieux évangéliques, on va exorciser les démons. Ça c'est super. Comment tu vas faire pour exorciser les démons des autres si toi ta vie en est remplie à différents niveaux, que ce soit parce que tu cèdes à la tentation dans ta propre vie ou que tu dis amen à tout ce à quoi tu devrais dire non. Il y a une cohérence. Rappelez-vous de cet épisode des Actes, hein, puisque j'ai pris un texte des Actes pour introduire. Ce fameux magicien qui commençait à exorciser les gens, à chasser les démons au nom de Jésus, alors qu'il n'était pas chrétien. Ce passage incroyable, terrible. Hein. Et le démon lui dit, oui, je te chasse au nom de Jésus et de ce Jésus que Paul prêche. Et le démon lui répond, Jésus, je connais. Paul, je connais, dit, mais toi, je ne te connais pas. Et le texte dit qu'il rosse le type, quoi. Il lui met une tête comme ça. Seul le Christ qui vient en chacun de nous peut vaincre le mal qui nous habite. Et la lutte spirituelle est exactement l'espace dans lequel la vie du Christ triomphe sur la puissance du mal, du péché et de la mort. En définitive, ce combat a pour unique but de nous faire, comme le dit si joliment Paul en Romains 13, même s'il prend ce verbe à deux sens dans cette épître pour lui, donc quand il nous dit « revêtir le Seigneur Jésus-Christ ». Jusqu'à pouvoir répéter avec lui cette immense vérité, en Galates 2,20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, cette phrase, elle est sibylline, hein, mais quand, là je vais aller très loin, hein, vous m'excuserez, hein, mais si on comprend vraiment ce que Paul dit, il peut le dire lui, parce qu'il est à ce stade sans doute, hein, c'est pas qu'il n'a plus de péché, c'est qu'il est dans le combat, il est un tel niveau d'expertise que à mon avis, il doit commencer à être difficile à prendre. Mais que dit-il quand l'idéal se produit au bout de ce chemin spirituel? C'est que quand la tentation vient, ce n'est plus vous, si le Christ est pleinement en plénitude en vous, ce n'est plus vous qui êtes opposé à cette tentation, c'est le Christ en vous. Et qui va faire tomber le Christ au travers d'une tentation? Mais mes amis, personne. Hein, c'est ça que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Alors, tentation vient, ben, c'est une tentation. Hein, mais c'est le Christ qui s'oppose, qui fait par avant, si vous préférez. Bon, je dis ça, c'est très... Moi, j'y suis pas. Hein, ça, ceux qui me connaissent l'avaient bien remarqué. Hein, je n'ai pas besoin de préciser. Okay, ça veut dire quoi, ces sourires, l'entendu? Nous allons donc essayer dans les prochaines semaines de décoder le langage de la Bible et des pères de l'Église, car comme je l'ai déjà dit, certaines catégories psychologiques et anthropologiques pourraient être évoquées, catégories auxquelles les pères n'avaient pas accès à leur époque. Bien entendu, on va devoir parfois faire le transfert de l'un à l'autre. À quoi donc ils font allusion, les textes bibliques et les pères, quand ils parlent de certaines problématiques ? Je continuerai néanmoins, vous m'excuserez sans doute, à emprunter les termes de combat et de lutte pour perplexe que ces mots pourraient en laisser plusieurs, mais ils ont ces mots, à mon sens, l'avantage, la clarté. Quant à l'âpreté qui caractérise le combat dont nous parlons, et il constitue dès lors une invitation claire à prendre tout ça véritablement au sérieux. Alors, je termine. Pour aujourd'hui, avec ce sympathique extrait d'un texte de Martyrius, à qui en ont parlé, on s'imagine, hein, un père syriaque, si syriaque ça existe, hein, du 7e siècle. Est-ce que par hasard, dit-il, la lutte intérieure, l'effort sur les pensées et la guerre contre les passions étant dans la pensée des pères d'Orient, les maladies spirituelles, hein, dont je reprends. Est-ce que par hasard la lutte intérieure, l'effort sur les pensées et la guerre contre les passions ne seraient pas aussi rudes que la guerre extérieure contre les persécuteurs et que la torture du corps, parce qu'il a été torturé aussi parce qu'il était chrétien? Donc il se pose la question, lequel est le pire? Il continue, il me semble à moi qu'ils sont encore plus rudes, donc les combats intérieurs. Dans la mesure où Satan est le plus cruel et le plus méchant que les hommes méchants. Tant qu'il y aura souffle dans nos narines, n'arrêtons donc pas, ne cessons pas de combattre. Ne nous laissons pas abattre, ni mettre en déroute devant lui, mais persévérons à lutter contre lui jusqu'à la mort, afin de recevoir de notre Seigneur la couronne de la victoire au jour de la rétribution. Et je termine vraiment avec cette autre petite citation d'Antoine le Grand qui devrait nous faire tomber de notre chaise, hein. Enfin, en tout cas, il me semble. Le mal en nous est une maladie à guérir, même si le remède est le sang de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.